Christophe Colomb à la recherche d'un investisseur. Le capitalisme a joué un rôle décisif dans l'essor de la science moderne, mais aussi dans l'émergence de l'impérialisme européen. Et c'est avant tout celui-ci qui a créé le système de crédit capitaliste. Certes, le crédit n'est pas une invention de l'Europe moderne. Il a existé dans presque toutes les sociétés agricoles, et au début des temps modernes, l'émergence du capitalisme européen a été étroitement liée aux développements économiques en Asie. Ne perdons pas de vue non plus que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Asie a été la dynamo économique du monde. Les Européens disposaient de bien moins de capitaux que les Chinois, les musulmans ou les Indiens. Dans les systèmes sociopolitiques de la Chine, de l'Inde et du monde musulman, le crédit ne jouait qu'un rôle secondaire. Sur les marchés d'Istanbul, d'Ispahan, de Delhi et de Pékin, marchands et banquiers pensaient sans doute dans un esprit capitaliste, mais les rois et généraux des palais et des forts était enclin à mépriser les marchands et la pensée mercantile. La plupart des empires non européens de l'aube des temps modernes furent l'œuvre de grands conquérants, comme Nourashi et Nader Shah, ou d'élites bureaucratiques et militaires, comme dans les empires Qing et Ottomans. Finançant la guerre par l'impôt et le pillage, sans s'embarrasser de subtiles distinctions entre les deux, ils ne devaient pas grand-chose au système de crédit et se souciaient encore moins des intérêts des banquiers ou des investisseurs. En Europe, en revanche, rois et généraux adoptèrent progressivement la façon de penser mercantile, jusqu'à ce que marchands et banquiers deviennent l'élite dirigeante. La conquête européenne du monde fut de plus en plus financée par le crédit plutôt que par l'impôt, et toujours plus dirigée par les capitalistes dont la grande ambition était d'avoir un maximum de retour sur investissement. Les empires des banquiers et des marchands en redingote et haute forme triomphèrent des empires bâtis par des rois et des nobles en habits dorés et armures étincelantes. Les empires mercantiles se montrèrent simplement bien plus habiles à financer leurs conquêtes. Personne ne veut payer des impôts, mais tout le monde investit volontiers. En 1484, Christophe Colomb approcha le roi du Portugal, lui proposant de financer une flotte qui ferait voile vers l'ouest et trouverait une nouvelle route commerciale vers l'est asiatique. Ces explorations étaient une affaire très risquée et coûteuse. Il fallait beaucoup d'argent pour construire des navires, acheter des provisions, payer marins et soldats, et rien ne garantissait la rentabilité de l'investissement. Le roi du Portugal déclina la proposition. Tel un patron de start-up aujourd'hui, Colomb ne baissa pas les bras. Il fit valoir son idée auprès d'autres investisseurs potentiels en Italie, en France, en Angleterre et de nouveau au Portugal. Chaque fois, il essuya un refus. Il tenta alors sa chance auprès de Ferdinand et Isabelle, les souverains de l'Espagne unie depuis peu. S'entourant de lobbyistes aguerris, il parvint à convaincre la reine Isabelle d'investir. Chaque écolier le sait, la reine Isabelle remporta le jackpot. Les découvertes de Colomb permirent aux Espagnols de conquérir l'Amérique, où ils exploitèrent des mines d'or et d'argent, mais aussi des plantations de canne à sucre et de tabac qui enrichirent les rois, les banquiers et les marchands espagnols au-delà de leurs rêves les plus fous. 100 ans plus tard, princes et banquiers accordaient bien plus volontiers du crédit aux successeurs de Christophe Colomb. Grâce aux trésors moissonnés en Amérique, ils avaient plus de capitaux à leur disposition. Non moins important était le fait que princes et banquiers eussent bien plus confiance dans le potentiel de l'exploration et fussent plus disposés à céder leur argent. Tel était le cercle magique du capitalisme impérial. Crédit finançant les découvertes, découvertes menant aux colonies, colonies rapportant des profits, profits alimentant la confiance et confiance se traduisant en davantage de crédit. Nourashi et Nader Shah se retrouvèrent à court de carburant après quelques milliers de kilomètres. De conquête en conquête, la dynamique financière des entrepreneurs capitalistes ne cessa de prendre de l'élan. Ces expéditions n'en demeuraient pas moins des affaires de chance, en sorte que les marchés restaient très prudents. Beaucoup d'expéditions revenaient en Europe les mains vides, sans avoir rien trouvé de valeur. Les Anglais, par exemple, perdirent beaucoup de capitaux en vaines tentatives pour découvrir un passage du Nord-Ouest vers l'Asie en passant par l'Arctique. Beaucoup d'autres expéditions ne devaient jamais revenir. Des navires heurtèrent des icebergs ou sombrèrent dans des tempêtes tropicales quand ils ne furent pas victimes de pirates. Afin d'accroître le nombre d'investisseurs potentiels et de réduire les risques encourus, les Européens se tournèrent vers des sociétés anonymes à responsabilité limitée. Au lieu qu'un seul investisseur mise tout son argent sur une seule vieille guimbarde, la société par action recueillait des fonds auprès d'un grand nombre d'investisseurs, chacun ne risquant qu'une petite portion de son capital. Les risques étant ainsi réduits, plus rien ne limitait les profits. Même un modeste investissement dans le bon navire pouvait faire de vous un millionnaire. Décennie après décennie, l'Europe occidentale vit se développer un système financier sophistiqué capable de réunir des fonds importants à bref délai pour les mettre à la disposition des entreprises privées et des pouvoirs publics. Ce système pouvait financer explorations et conquêtes bien plus efficacement que n'importe quel royaume ou empire. On trouve un aperçu de la toute nouvelle puissance du crédit dans le combat acharné opposant l'Espagne aux Pays-Bas. Au XVIe siècle, l'Espagne était l'État le plus puissant d'Europe, dominant un vaste empire mondial. Elle gouvernait une bonne partie de l'Europe, d'énormes morceaux de l'Amérique du Nord et du Sud, les Philippines et tout un chapelet de bases le long des côtes d'Afrique et d'Asie. Chaque année, des flottes chargées de trésors américains et asiatiques regagnaient les ports de Séville et de Cadix. Les Pays-Bas n'étaient qu'un petit marais venteux, dépourvu de ressources naturelles, un petit coin des dominions du roi d'Espagne. En 1568, les Hollandais, majoritairement protestants, se révoltèrent contre leur suzerain catholique espagnol. Au début, les rebelles ressemblaient à des Don Quichotte bataillant contre d'invincibles moulins à vent. 80 ans plus tard, cependant, les Hollandais avaient non seulement arraché leur indépendance à l'Espagne, mais aussi évincé les Espagnols et leurs alliés portugais pour devenir les maîtres des grandes routes océaniques et bâtir un empire mondial qui fit d'eux l'État le plus riche d'Europe. Le secret de la réussite hollandaise fut le crédit. Les bourgeois hollandais, qui n'avaient guère le goût du combat sur terre, recrutèrent des armées de mercenaires, appelés à combattre les Espagnols pour leur compte. Pendant ce temps, eux-mêmes prenaient la mer avec une flotte toujours plus importante. Si les armées de mercenaires et les flottes équipées de canons coûtaient une fortune, les Hollandais avaient plus de facilité à financer leurs expéditions militaires que le puissant empire espagnol, parce qu'ils avaient la confiance du système financier européen en plein essor quand le roi espagnol ne cessait de la compromettre par négligence. Les financiers accordèrent suffisamment de crédit aux Hollandais pour qu'ils puissent monter des armées et des flottes qui leur permirent de dominer les routes commerciales à travers le monde et leur assurèrent ainsi de confortables profits. Ces profits leur permirent de rembourser leurs emprunts, renforçant ainsi la confiance des financiers. Amsterdam devenait à vue d'œil l'un des ports d'Europe les plus importants, mais aussi la mecque financière du continent. Comment les Hollandais gagnèrent-ils la confiance du système financier ? Primo, ils veillèrent à rembourser les emprunts dans les délais et intégralement, rendant le crédit moins risqué pour les prêteurs. Secondo, le système judiciaire de leur pays était indépendant et protégeait les droits des particuliers, notamment les droits attachés à la propriété privée. Les capitaux s'éloignent des dictatures qui ne défendent pas les particuliers et leurs biens pour affluer dans les pays qui défendent l'état de droit et la propriété privée. Imaginez-vous en fils d'une solide famille de financiers allemands. Votre père voit une occasion de développer ses affaires en ouvrant des succursales dans les grandes villes européennes. Il vous envoie à Amsterdam et dépêche votre frère cadet à Madrid, vous donnant à chacun 10 000 pièces d'or à investir. Votre frère prête son capital initial à intérêt au roi d'Espagne qui en a besoin pour lever une armée afin de combattre le roi de France. Vous décidez de prêter le vôtre à un marchand qui souhaite investir dans la brousse à la pointe sud d'une île désolée qu'on appelle Manhattan, certain que l'immobilier va monter en flèche tandis que l'Hudson se transformera en grande artère commerciale. Les deux prêts doivent être remboursés dans un an. L'année passe. Le marchand hollandais vend la terre achetée avec un joli bénéfice et vous rembourse avec les intérêts promis. Votre père est content. À Madrid, cependant, votre petit frère commence à s'inquiéter. La guerre contre la France a bien tourné pour le roi d'Espagne, mais il s'est laissé entraîner dans un conflit avec les Turcs. Il a besoin de chaque sou pour financer la nouvelle guerre et estime que c'est bien plus important que de rembourser de vieilles dettes. Votre frère envoie des lettres au palais et demande à des amis bien introduits auprès de la cour d'intercéder. En vain. Non seulement votre frère n'a pas touché les intérêts promis, mais il a perdu le principal. Votre père est mécontent. Et pour comble, le roi dépêche auprès de votre frère un officier du trésor qui lui signifie sans détour que le roi compte bien recevoir un autre prêt du même montant tout de suite. Votre frère n'a pas d'argent à prêter. Il écrit à papa, essayant de le persuader que cette fois c'est la bonne. Le roi s'en sortira. Le pater familias a un faible pour le petit dernier. Le cœur gros, il consent. De nouveau, 10 000 pièces d'or disparaissent dans le trésor espagnol. On ne les reverra plus. Pendant ce temps, à Amsterdam, les perspectives sont brillantes. Vous accordez de plus en plus de prêts aux marchands hollandais, qui remboursent vite et intégralement. Mais votre chance ne dure pas indéfiniment. Un de vos clients habituels a le pressentiment que les sabots vont bientôt faire fureur à Paris et vous demande de quoi ouvrir un magasin de souliers dans la capitale française. Vous lui prêtez l'argent. Malheureusement, les galoches ne sont pas au goût des Françaises et le marchand maussade refuse de rembourser son emprunt. Votre père est furieux. Il vous dit à tous les deux qu'il est temps de lâcher les hommes de loi. À Madrid, votre frère engage des poursuites contre le monarque espagnol, tandis qu'à Amsterdam, vous faites un procès aux magiciens des galoches d'antan. En Espagne, les tribunaux sont soumis au roi. Son bon plaisir décide du sort des juges, et ceux-ci redoutent le châtiment qui les attend s'ils ne se plient pas à son bon vouloir. Aux Pays-Bas, la justice est séparée de l'exécutif. Elle n'est tributaire ni des bourgeois ni des princes du pays. La cour madrilène rejette la plainte de votre frère. La cour amstelodamoise tranche en votre faveur et vous octroie un privilège sur les actifs du marchand de galoches afin de le forcer à vous rembourser. Votre père en a tiré la leçon. Mieux vaut faire des affaires avec les marchands qu'avec les rois, et mieux vaut en faire en Hollande qu'à Madrid. Les peines de votre frère ne s'arrêtent pas là. Le roi d'Espagne a désespérément besoin d'argent frais pour payer son armée. Il est certain que votre père a des réserves. Et il forge de toutes pièces des accusations de trahison contre votre frère. S'il ne lui fournit sur le champ 20 000 pièces d'or, il le jettera dans un cachot et l'y laissera croupir jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est plus que votre père n'en peut supporter. Il paie la rançon de son fils chéri, mais se jure de ne plus jamais faire d'affaires en Espagne. Il ferme sa succursale madrilène et envoie votre frère à Rotterdam. 2 succursales en Hollande. Cela a tout l'air d'une bonne idée. Il s'est laissé dire que même les capitalistes espagnols sortent leur fortune en fraude du pays. Eux aussi comprennent que, s'ils veulent garder leur argent et s'en servir pour acquérir plus de richesses, mieux vaut l'investir dans un pays où prévaut l'état de droit et où la propriété privée est respectée, aux Pays-Bas, par exemple. Le roi d'Espagne a dilapidé le capital de confiance des investisseurs au moment même où les marchands hollandais gagnaient leur confiance. Et ce sont les marchands hollandais, non pas l'État hollandais, qui ont construit l'Empire hollandais. Le roi d'Espagne n'eut de cesse de financer et maintenir ses conquêtes en levant des impôts impopulaires. Les marchands hollandais financèrent la conquête en empruntant, et de plus en plus aussi en vendant des parts dans leurs compagnies qui permettaient aux détenteurs de toucher une portion des profits. Des investisseurs prudents qui n'auraient jamais donné leur argent au roi d'Espagne et qui auraient réfléchi à deux fois avant de faire crédit au gouvernement hollandais, se firent une joie d'investir des fortunes dans les compagnies par action hollandaises, qui furent le pivot du nouvel empire. Si vous pensiez qu'une compagnie allait réaliser de gros profits, mais qu'elle eût déjà vendu toutes ses parts, vous pouviez toujours en racheter à d'autres actionnaires, probablement à un prix plus élevé qu'ils ne les avaient payés. Si vous achetiez des parts pour découvrir ensuite que la compagnie était dans une mauvaise passe, vous pouviez essayer de vous en défaire à moindre prix. Le marché des parts qui en résulta aboutit à la mise en place, dans la plupart des grandes villes européennes, de bourses, des lieux où s'échangeaient les participations dans les compagnies. La plus célèbre des compagnies hollandaises par action, la Compagnie des Indes Orientales, Vereenigde Oost-Indische Compagnie, ou VOC, vit le jour en 1602, alors même que les Hollandais se délestaient de la domination espagnole et que l'on entendait encore les tirs de l'artillerie ennemie non loin des remparts d'Amsterdam. La VOC se servit de l'argent de la vente des titres pour armer des navires, les envoyer en Asie et en rapporter des produits chinois, indiens et indonésiens. elle finança aussi les opérations militaires des navires de la compagnie contre des concurrents ou des pirates. Finalement, c'est l'argent de la VOC qui finança la conquête de l'Indonésie. L'Indonésie est le plus grand archipel du monde. Au début du XVIIe siècle, ces milliers et milliers d'îles étaient aux mains de centaines de royaumes, principautés, sultanats et tribus. La première fois qu'ils débarquèrent en Indonésie, les marchands de la VOC poursuivaient des objectifs strictement commerciaux. Pour assurer leurs intérêts commerciaux, cependant, et maximiser les profits de leurs actionnaires, les marchands de la VOC se mirent à combattre les potentats locaux, qui pratiquaient des tarifs exorbitants, mais aussi la concurrence européenne. La VOC arma de canons ses navires marchands, recruta des mercenaires européens, japonais, indiens et indonésiens, et construisit des forts, livrant des batailles et organisant des sièges de grande ampleur. Cette entreprise peut bien nous paraître curieuse, mais au début des temps modernes, il était assez courant de voir des compagnies privées recruter non seulement des soldats, mais aussi des généraux et des amiraux, acquérir des canons et des navires, et même des armées entières prêtes au combat. Cela allait de soi pour la communauté internationale, qui ne fronçait pas les sourcils en voyant une compagnie privée se tailler un empire. Les îles tombèrent l'une après l'autre dans les mains des mercenaires de la VOC, qui transforma en colonie une bonne partie de l'Indonésie. La VOC dirigea l'Indonésie pendant près de 200 ans. C'est seulement en 1800 que l'État hollandais prit le contrôle de l'Indonésie, laquelle allait rester une colonie nationale pendant un siècle et demi. D'aucuns nous mettent en garde aujourd'hui. Les entreprises du XXIe siècle accumuleraient beaucoup trop de pouvoir. L'histoire moderne montre jusqu'où cela peut aller si on laisse les entreprises privées poursuivre leurs intérêts sans les brider. Tandis que la VOC s'activait dans l'océan Indien, la compagnie hollandaise des Indes occidentales, Geoctrooierde West-Indische Compagnie, ou GWC, sillonnait l'Atlantique. Afin de contrôler le commerce sur l'Hudson, la GWC créa la New Amsterdam sur une île située à l'embouchure du fleuve. Menacée par les Indiens, la colonie subit plusieurs assauts des Britanniques, qui finirent par la prendre en 1664 et lui donnèrent un nouveau nom, New York. Les vestiges du mur construit par la GWC pour défendre sa colonie contre les Indiens et les Britanniques sont aujourd'hui recouverts par la rue la plus célèbre du monde, Wall Street. Le XVIIe siècle touchant à sa fin, l'autosatisfaction et des guerres continentales coûteuses amenèrent les Hollandais à perdre non seulement New York, mais aussi leur place dans le moteur financier et impérial de l'Europe. La France et la Grande-Bretagne se disputèrent avec acharnement la place laissée vacante. Au commencement, la France parut être dans une position bien plus forte. Elle était plus étendue que sa rivale, plus riche, plus peuplée, et elle possédait une armée plus grande et plus expérimentée. Mais, contrairement à la France, la Grande-Bretagne sut gagner la confiance du système financier. Particulièrement notoire fut le comportement de la couronne française au cours de ce qu'on a appelé la bulle du Mississippi, la plus grande crise financière de l'Europe au XVIIIe siècle. Au départ, on retrouve une compagnie par action bâtisseuse d'empire. En 1717, la compagnie du Mississippi, installée en France, entreprit de coloniser la vallée du Mississippi inférieure, créant au passage la ville de la Nouvelle-Orléans. Pour financer ses projets ambitieux, la compagnie, bien introduite à la cour de Louis XV, vendit des actions à la Bourse de Paris. John Law, le directeur de la compagnie, était aussi le gouverneur de la Banque centrale. Le roi le nomma de surcroît contrôleur général des finances, poste grosso modo équivalent à celui de ministre des Finances de nos jours. En 1717, la vallée du Mississippi inférieur offrait peu d'attrait, hors des marais et des alligators, mais la compagnie du Mississippi répandit le bruit de richesses fabuleuses et d'opportunités sans bornes. Aristocrates, hommes d'affaires et membres flegmatiques de la bourgeoisie se laissèrent prendre par ces chimères, et le cours des actions s'envola. Dans un premier temps, les actions se vendaient 500 livres pièce. Le 1er août 1719, elles se négociaient à 2750 livres. Le 30 août, elles valaient 4100 livres et le 4 septembre, 5000 livres. Le 2 décembre, le prix d'une action de la Compagnie du Mississippi franchit le seuil des 10 000 livres. Une vague d'euphorie déferla dans les rues de Paris. D'aucuns vendirent tous leurs biens et souscrivirent d'énormes emprunts pour acquérir des actions. Tout le monde croyait avoir découvert un moyen d'enrichissement facile. Quelques jours plus tard, c'était la panique. Certains spéculateurs comprirent que le cours des actions était totalement irréaliste et insoutenable. Ils se dirent que mieux valait vendre tant que le cours était au plus haut. L'offre augmentant, le prix baissa. Les autres investisseurs, voyant le prix chuter, voulurent aussi se débarrasser de leurs actions en vitesse. Le cours continua de chuter, provoquant une véritable avalanche. Pour stabiliser les prix, la Banque de France, dont le gouverneur était John Law, acheta des actions de la compagnie, mais elle ne pouvait le faire éternellement, et elle finit par être à court d'argent. Quand cela arriva, le contrôleur général des finances, le même John Law, ordonna de faire marcher la planche à billets pour acheter des actions supplémentaires. Du coup, c'est le système financier français tout entier qui fut pris dans la bulle. Ce tour de magie financier ne réussit pas. Le cours des actions chuta de 10 000 à 1 000 livres, puis s'effondra carrément jusqu'à perdre toute valeur. La Banque centrale et le Trésor royal possédaient une grosse quantité d'actions sans valeur et n'avaient plus d'argent. Les gros spéculateurs s'en sortirent largement indemnes. Ils avaient vendu à temps. Les petits investisseurs avaient tout perdu. Beaucoup se suicidèrent. La bulle du Mississippi fut l'une des crises financières les plus spectaculaires de l'histoire. Le système financier du royaume ne se remit jamais totalement du coup. La manière dont la compagnie du Mississippi se servit de son poids politique pour manipuler les cours des actions et alimenter la frénésie d'achat ruina la confiance dans le système bancaire français et la sagesse financière du roi. Louis XV eut de plus en plus de mal à trouver du crédit. Ce fut l'une des principales raisons de la chute de l'Empire français d'outre-mer entre les mains des Britanniques. Alors que ceux-ci pouvaient emprunter aisément et à faible taux d'intérêt, la France avait du mal à obtenir des prêts et on exigeait d'elle des intérêts plus élevés. Pour financer ses dettes croissantes, le roi de France empruntait de plus en plus d'argent à des taux d'intérêt toujours plus élevés. Dans les années 1780, Louis XVI, qui était monté sur le trône à la mort de son grand-père, finit par comprendre que son budget annuel était contraint par le service de la dette et qu'il courait à la banqueroute. À contre-cœur, en 1789, Louis XVI réunit les États généraux, le Parlement français qui n'avait pas siégé depuis un siècle et demi, afin de trouver une solution à la crise. Ainsi commença la Révolution française. Tandis que l'Empire français d'outre-mer s'émiettait, l'Empire britannique connaissait une rapide expansion. De même que l'Empire hollandais auparavant, l'Empire britannique fut créé et largement dirigé par des compagnies privées par action, dont la base était la Bourse de Londres. Les premières implantations anglaises en Amérique du Nord, au début du XVIIe siècle, furent l'œuvre de compagnies telles que la London Company, la Plymouth Company, la Dorchester Company et la Massachusetts Company. Le sous-continent indien fut lui aussi conquis non par l'État britannique, mais par l'armée de mercenaires de la British East India Company. Cette compagnie fit même mieux que la VOC. Depuis son siège de Leadenhall Street à Londres, elle dirigea pendant près d'un siècle un puissant empire indien, maintenant une force militaire allant jusqu'à 350 000 soldats, soit nettement plus que les forces armées de la monarchie britannique. C'est seulement en 1858 que la couronne nationalisa l'Inde en même temps que l'armée privée de la compagnie. Napoléon se moquait des Britanniques, cette nation de boutiquiers. Or, ce sont ces boutiquiers qui lui infligèrent une défaite. Et leur empire était le plus vaste que le monde eût jamais vu.